Figaro Radio.
Le club, le Figaro Politique.
Merci d'être présent sur le plateau du club politique. Alors j'accueille Anne Fulda, on est très heureux de vous avoir. Vous êtes grand reporter en charge des pages portraits du Figaro. Marie-Cécile Renaud, qui est une habituée des clubs politiques maintenant, rédactrice en chef adjointe au Figaro Économie, qui va nous éclairer notamment sur cette course au milliard dont je parlais à l'instant. Sur ce plateau également, Arthur Berda, qui est rédacteur en chef adjoint au service politique du Figaro et qui est auteur de Emmanuel Macron, Vérités et légendes aux éditions Perrin, toujours en vente dans les bonnes librairies.
Absolument.
Et puis notre invité spécial, notre politologue ce soir, c'est Stewart Shaw, qui est directeur d'études chez Verian. Et vous êtes auteur avec Frédéric Dabi, qu'on connaît très bien au Figaro, de La Fracture. Aux éditions Les Arènes. Alors, on va commencer les élections européennes, l'élection donc du 9 juin prochain, avec une question qui est de savoir si les jeux sont faits à moins de 3 mois du scrutin. On voit sondage après sondage que l'écart se creuse entre le Rassemblement national, qui est désormais au-dessus des 30%, et Renaissance, qui est en perte de vitesse sous les 20%. Stewart, je vais commencer avec vous, le sondeur, est-ce que vous pensez que la messe est dite à quelques semaines du scrutin ?
Si je dirais ça, ce serait quand même une catastrophe, y compris pour les sondeurs, donc je ne vais pas dire ça, et je crois d'ailleurs que la messe n'est pas dite, puisque vous avez les intentions de vote, et vous avez raison de le rappeler, qui donnent une photographie des dynamiques électorales présentes, mais ce qu'il y a aussi, c'est le potentiel électoral, c'est-à-dire que lorsqu'on ne fait pas des intentions, on peut faire des probabilités de vote, et quand on fait des probabilités de vote, on peut analyser la part des Français qui se disent encore indécis, et donc on peut analyser les mobilités électorales qui peuvent encore avoir lieu dans les mois qui viennent. Et là, quand on analyse ces chiffres, c'est assez intéressant, puisqu'il y a un ensemble d'enjeux. Moi, j'en vois trois. Le premier, pour le Rassemblement national, même s'il caracole en tête des intentions de vote, vous le rappeliez. Si on regarde l'électorat de la droite extrême, on va dire, la droite de la droite, on voit que 61% des personnes qui disent aujourd'hui pouvoir voter Jordan Bardella disent aussi pouvoir voter pour Marion Maréchal. Donc ça veut dire qu'il y a un socle électoral qui est encore pas totalement, je dirais, structuré, figé, et qui a encore une mobilité à venir. Le deuxième enjeu, si je peux me permettre, c'est pour la majorité présidentielle, vous l'avez souligné. Là, on voit qu'il y a un tiers des électeurs qui se disent prêts à voter aujourd'hui pour une liste de la majorité présidentielle, qui se disent aussi prêts à voter pour une liste de Raphaël Glucksmann, et un tiers pour François Bellamy. Donc, il faudra voir aussi la dynamique des campagnes. On voit aussi que sur l'électorat de droite, est-ce que les récentes positions du gouvernement sur l'IVG, la fin de vie, va avoir un impact sur ce tiers d'électeurs qui pourraient se rabattre sur François Bellamy. Et puis, maintenant la gauche, là, on voit finalement que rien n'est fait non plus. Parce qu'on voit qu'un tiers, un tiers, un tiers des électeurs LFI, Europe Écologie et Parti Socialiste peuvent aujourd'hui voter pour l'un ou pour l'autre. Donc, encore une fois, les jeux ne sont pas...
Arthur Berda, donc, est-ce que finalement Jordan Bardella n'est pas trop haut, trop tôt dans ce scrutin, et il serait peut-être trop confiant ?
Ce qui est certain, c'est que le parti, le Rassemblement National, on va en parler dans un instant, donc je ne voudrais pas trop déflorer le sujet, mais n'a pas l'habitude de faire la course en tête. Ça oui, Marine Le Pen l'a fait avant chaque présidentielle, elle est donnée en tête du premier tour. Ils n'ont pas l'habitude de faire la course en tête dans un scrutin à un tour. Et c'est là la grande différence. C'est que Marine Le Pen, elle a l'habitude d'être favorite du premier tour, et puis elle a l'habitude de savoir qu'au second, elle a toutes les chances de perdre. En tout cas, jusqu'ici, elle avait cette habitude-là. Pour une fois, le RN est non seulement en tête, vous l'avez dit, très largement, mais surtout, ils n'ont pas le droit à l'erreur parce qu'il n'y a qu'un tour, et donc Jordan Bardella ne peut pas, ne veut pas être rattrapé comme ils l'ont déjà été en 2019. Et il se souvient de cela, Jordan Bardella. Alors à l'époque, il avait 23 ans, il en a aujourd'hui 28. À l'époque, c'était un pari.
Il avait fait 23% d'ailleurs, son âge.
Absolument. Et il était un pari à l'époque, il est aujourd'hui un sortant, un favori, très largement. Et donc son enjeu, c'est de ne pas se faire rattraper par la liste macroniste, c'est aujourd'hui la seule. Elle est dans les choux, la liste macroniste. Ouais. Mais c'est globalement la seule qui est en capacité d'éventuellement, peut-être, pourquoi pas, le rattraper. Bon, l'enjeu, c'est de ne pas se laisser rattraper. Et puis, je vous cède la parole, puisque...
Non, mais justement, ça, c'est, vous faites une bonne transition, parce que la question, c'est de savoir finalement comment les macronistes peuvent remonter la pente. Et ils ont choisi une stratégie qui est celle d'agiter le chiffon russe et pour rediaboliser le RN. On écoute tout de suite la candidate Renaissance, la tête de liste Valérie Ayé.
Je pense qu'il faut expliquer aux Français quelle est la réalité des positions du Rassemblement national et de l'extrême droite. C'est important dans cette campagne à la fois de dénoncer ses positions, ses votes, puisque moi je les vois quand ils viennent voter au Parlement européen, je les vois, ces positions qui sont pro-russes et qui servent avant tout les intérêts de Vladimir Poutine.
Valérie Ayé nous dit quoi ? Elle nous dit nous sommes quasiment à Munich en 1938. Enfin, il faut arrêter le délire. On n'est pas à Munich en 1938, on est en France en 2024. Et plutôt que d'expliquer matin, midi et soir que tous les problèmes de la France sont de la faute du Rassemblement national, moi je pense que dans cette campagne, il faut opposer le bilan de la Macronie au Parlement européen et au niveau national, et évidemment le projet que porte le Rassemblement national.
Alors Anne Fida, on voit que le débat se structure, notamment autour de la question du conflit ukrainien. Est-ce que vous pensez que la stratégie adoptée par Renaissance peut être efficace électoralement ?
Écoutez, je pense... Alors déjà, en préambule, je voudrais dire... Enfin, c'est une évidence, mais on est au début de la campagne quand même. Ouais. Donc, parler de l'élection avant que la campagne ait été menée, même s'il y a des tendances...
Surtout dans l'esprit des Français, voilà. C'est pas encore vraiment...
Et surtout,
vraiment,
les Français ne connaissent ni la date. Certains ne savent même pas qu'il y a des élections, ne connaissent pas la date, ne connaissent pas les candidats, ne connaissent pas les enjeux. Donc déjà, ça relativise peut-être la portée, l'importance des projections qui sont faites aujourd'hui, au jour J. Concernant la stratégie, ça... Le positionnement du Rassemblement national, ces prises de position passées par rapport à la Russie de Poutine, sont évidemment un angle sur lequel il va être attaqué, d'ailleurs pas seulement par la majorité présidentielle. On a vu lors du débat public sur public, oui. Sénat, je crois. Bon, c'était pas Bardella, c'était...
Raphaël Glucksmann, notamment, qui a attaqué
en traitant de petit télégraphiste de Kremlin. D'ailleurs, c'est on voit que l'homme a de la culture, c'est des références, ouais, à des années bien antérieures. Donc il a attaqué, c'était Mariani qui était là, sur ce thème-là. Donc c'est un thème qui peut effectivement un peu réunir les uns et les autres, et pas que la majorité présidentielle. Parce qu'effectivement, la réponse du Rassemblement national n'est pas extrêmement convaincante.
Stuart Shaw, est-ce que vous pensez que justement cette question ukrainienne et cet angle d'attaque de la Macronie peut être efficace vis-à-vis des électeurs ? Et en tout cas, est-ce qu'elle est au cœur des préoccupations des Français sur ce scrutin ?
C'est vrai qu'on a tendance actuellement à revoir un petit peu les études d'opinion qui montrent que le soutien aujourd'hui, l'approbation de l'opinion publique sur le soutien français à l'Ukraine est en train de diminuer. On a malheureusement aussi une accoutumance finalement à l'actualité qui fait qu'effectivement une partie de l'opinion a plus tendance à regarder les conséquences de la guerre qui se fait que la volonté de voir vraiment la guerre entre guillemets qui s'arrête avec une solution à long terme. Donc on a plus le sentiment aujourd'hui que les Français sont acculés derrière un certain nombre de problématiques et de préoccupations qui lient là pour le coup assez fortement au conflit ukrainien. Donc c'est au cœur du conflit. Je ne suis pas certain que ce qui est vraiment dans la préoccupation majeure des Français, ce soit le lien aussi direct qui est fait entre le RN et la Russie de Vladimir Poutine.
Alors on va aborder la question de la participation, parce que justement ce scrutin des Européennes, il intervient après un certain nombre d'événements. Il y a eu le Covid, il y a eu la crise climatique, la guerre en Ukraine, on en a parlé. Est-ce que tous ces événements-là qui concernent l'Europe, où l'Europe a joué un rôle actif, hein, on l'a écrit dans le Figaro, peut susciter un regain d'intérêt et peut-être de participation des Français à cette élection, Marie-Cécile ?
Mais écoutez, je l'espère. Rappelons la date, puisque, comme Anne l'a dit, beaucoup de Français ignorent encore la date, donc c'est le 9 juin. Et Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a finalement cette campagne prend un peu l'allure d'un vote pour ou anti-Macron et qu'on oublie un peu les enjeux européens. Donc, j'espère que les débats vont permettre de remettre les enjeux au cœur du débat et que les Français s'interrogent sur qu'est-ce que l'Europe m'apporte à moi. Parce que, comme vous le dites, il y a des effets très concrets. Donc, pendant le Covid, on a vu que la Commission a passé des appels d'offres et des commandes groupées de masques, de respirateurs. Elle a été très active. Elle a protégé les Européens. Ensuite, sur la politique de vaccination, c'est bien parce que les Européens, les 27, ont été unis et ont pu passer des commandes groupées, qu'ils ont réussi à avoir des doses et peser face aux laboratoires de taille mondiale, et que les Français, enfin que les Européens ont tous pu être vaccinés. On était à 68% de taux de vaccination, ce qui était un record de couverture. Et cette politique groupée, cette union à 27, ça a permis aussi cette mutualisation de financer la recherche et donc d'aller plus loin dans la protection. Donc, l'Union européenne, c'est des enjeux très importants qui nous touchent tous les jours dans notre vie quotidienne, parce que c'est aussi le pacte vert qui doit nous amener à la neutralité carbone en 2050. C'est la BCE qui a jugulé l'inflation en remontant ses taux et dont on attend une baisse de taux au printemps prochain. Donc, ce sont des enjeux très proche dans la vie quotidienne des Français.
La question, je me tourne vers vous, Arthur, c'est de savoir si c'est cet argumentaire-là, il est audible chez une certaine partie de l'électorat, notamment, je pense, aux classes populaires qui sont, on va dire, le réservoir de base du Rassemblement National et de la France Insoumise, et donc ces deux partis peuvent être pénalisés par justement une plus faible participation dans ces...
Je vais reprendre le début de votre question. Est-ce que cet argumentaire-là peut être audible chez une partie de l'électorat ? Oui. Chez la partie lepéniste ou mélenchoniste de l'électorat, plus difficilement, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, les électeurs de Marine Le Pen ou de qui de Marine Le Pen, qui de Jordan Bardella, ce qu'ils vous disent, c'est en effet, sans doute en partie à tort, ils ne parlent pas des vaccins, ils parlent de l'immigration, que l'Union européenne n'arrive pas à endiguer, ils vous parlent de la crise agricole, on a entendu beaucoup d'agriculteurs s'en prendre à l'Europe, même si, parce que les sujets sont toujours plus complexes, les agriculteurs savent qu'ils ont aussi, en partie, besoin de l'Europe pour l'exportation, pour la PAC, la politique agricole commune. C'est de l'argent, c'est du concret.
C'est le premier poste du budget européen.
Absolument, c'est du concret. Donc, l'Europe, elle est très utile pour ceux qui veulent la défendre et elle est coupable de tous les maux pour ceux qui veulent la pourfendre. Et parmi eux, il y a en effet les électeurs du Rassemblement National. Je mets un petit peu de côté ceux de la France Insoumise, puisque la France Insoumise, c'est un petit peu... D'abord, ils sont donnés à 6%, je crois, je parle sous le contrôle de Stewart Shaw. Donc, en réalité, ils représentent assez peu d'électeurs dans ce scrutin-là, de ceux qui entendent aller voter, ceux qui comptent aller voter. Et leur programme est assez flou sur la question. Vous savez, il y avait eu le plan A, c'était on renégocie les traités.
Ah, ils n'en parlent plus aujourd'hui.
Voilà. Un peu comme le RN, qui a un petit peu changé son rapport à l'Europe, mais qui continue à expliquer que l'Europe est coupable de la plupart des maux, en tout cas de ceux qui sont le carburant électoral du parti, à savoir principalement l'immigration. Et sur cette question-là, l'Europe est très attendue. Emmanuel Macron avait promis, par exemple, une réforme de l'espace Schengen. Ça, c'est concret pour les gens. Cette réforme, elle tarde à voir le jour. Et c'est là-dessus que le RN, pour l'instant, parle aux électeurs, au sens propre et au sens figuré.
Alors, Stewart, il y a une assurance vie qu'a la Macronie qui reste imputrescible. C'est celle du vote des retraités. Il y a un sondage très intéressant d'Ipsos pour Le Monde qui a été publié la semaine dernière avec des chiffres quand même très impressionnants. 4% d'intention de vote chez les 18-24 ans pour la Renaissance contre 29% pour les plus de 70 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres-là ?
Ce qu'on disait tout à l'heure, que rien n'est fait, puisqu'effectivement, quand on voit que les intentions de vote, elles sont faites sur la base de ceux qui s'expriment au moment où on les interroge, donc ceux qui potentiellement iraient voter. Mais on ne sait pas vraiment qui ira voter le jour J, on l'espère le plus possible. Mais ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est que l'électorat qui est le plus assuré, on va dire, d'aller voter, effectivement, se structure autour de l'électorat d'Emmanuel Macron, de la majorité présidentielle, alors qu'un électorat peut être plus représentatif dans les abstentionnistes habituels, c'est l'électorat plus du Rassemblement National. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qu'il faut avoir aussi en tête, si on compare à 2019, ça sera le comportement des jeunes électeurs. En 2019, on a fait un bond en France en tout cas, de participation, notamment portée par les moins de 35 ans qui s'étaient, je pense que c'était 42% à peu près, ouais, qui s'étaient rendus aux urnes, ce qui je crois, correspondait à un bond de plus de 10 à 14 points par rapport à l'élection précédente.
Donc, pour quelle raison ? C'était la crise climatique ?
C'était la crise climatique. On avait vu aussi beaucoup de jeunes se porter sur les listes Europe Écologie Les Verts, sur la liste Europe Écologie Les Verts. Donc, il va y avoir là aussi, je pense, un œil affûté à avoir, à analyser sur le comportement des jeunes électeurs. J'en parle des jeunes parce que si vous regardez aujourd'hui la composition de l'électorat de Jordan Bardella, c'est l'une des tranches de population où il caracole en tête très loin devant l'ensemble des listes. Mmh. Si vous faites la comparaison des électeurs de moins de 30 ans, les jeunes actifs entre 25, 24 et 35 ans, Jordan Bardella est très largement au-dessus. Donc la question c'est, est-ce que oui ou non ils vont aller se mobiliser ? On l'espère, mais s'ils ne se mobilisent pas, bon, bah, c'est pas sûr que le Rassemblement National fasse autant.
Alors, il y a un match dans le match, hein, finalement, qui va se jouer. C'est à gauche, entre trois listes, la liste écologiste, la liste insoumise et la liste PS portée par Raphaël Glucksmann. Est-ce que l'ordre d'arrivée, selon vous, Anne Fulda, va avoir une influence sur eh bien, le pouvoir qui va être pris par l'un des camps en vue de la présidentielle de 2027
Peut-être, oui, probablement, mais... Même si bon, une élection européenne, enfin certains veulent en faire un galop d'essai avant la présidentielle, mais c'est pas vraiment comparable. Néanmoins, par exemple, c'est sûr que pour Raphaël Glucksmann, ça aura une valeur de test cette élection, parce que on voit bien qu'il y a un petit frémissement quand même, qu'il y a un petit phénomène autour de sa campagne. Donc c'est vrai que si il arrive à réaliser un score honorable, peut-être que cette gauche socialiste qui a complètement disparu des radars depuis quelque temps pourra à nouveau se dire que tout n'est pas qu'il y a de l'espace. Donc ça jouera. Et puis ça changera par rapport à la petite musique qu'on a depuis des mois, enfin pas qu'une petite musique, les résultats qu'on voit d'une LFI qui est triomphante et omniprésente sans cesse. Quoi.
Alors on va passer à la deuxième partie de cette émission consacrée plus spécifiquement au Rassemblement National, qui donc, on l'a dit, caracole en tête dans les sondages. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les enquêtes d'opinion, Stewart Shaw, je reprends encore le sondage Ipsos que je citais à l'instant, on se rend compte que le RN est en train de conquérir de nouvelles catégories, les classes moyennes et supérieures notamment. Les cadres supérieurs restent en retrait, mais ils sont maintenant 19% à opter pour le vote RN aux européennes, contre 12% en 2022, où ils votaient massivement pour Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire que le parti de Marine Le Pen est en train, finalement, vraiment d'achever cette mue qu'on a appelée dédiabolisation, normalisation, il y a plusieurs mots, pour justement devenir un parti de gouvernement ?
Il y a un effet attrape-tout aujourd'hui du RN qui est en train d'émerger, très concrètement, on le voit dans les études d'opinion, vous les avez citées. Ce que je trouve quand même intéressant, c'est de... Finalement, on est peut-être passé de la normalisation à une étape supplémentaire aujourd'hui qui est la légitimation d'un parti,
la
crédibilisation d'un parti de celui de Marine Le Pen. Je vous donne quelques chiffres en plus de ce que vous avez cité, mais... Quand vous regardez la comparaison, alors on a un baromètre avec vos confrères du Monde sur le Rassemblement National depuis 1984, il y a deux chiffres moi qui me saisissent. Le premier, c'est depuis la création de ce baromètre, on n'a jamais eu autant de Français qui estimaient que le Rassemblement National ne constituait pas un danger pour la démocratie. C'est une inversion des courbes, et ça, c'est un indicateur qui montre qu'effectivement, le Rassemblement National est aujourd'hui un parti républicain comme les autres. Le deuxième chiffre, moi, qui me semble intéressant, c'est sur l'adhésion aux idées. À peu près un tiers des Français aujourd'hui disent adhérer aux idées du Rassemblement National, mais ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous regardez le score de ceux qui désapprouvent complètement le RN, c'est le score le plus bas jamais enregistré depuis 1984, donc ça prouve là aussi que sur le terrain des idées, autant que sur le terrain politique, on a une force politique, un mouvement qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur.
Marie-Cécile, il y a un certain nombre de résistances tout de même, notamment dans les milieux économiques. Je vous invite à lire une très bonne enquête qui a été publiée ce week-end, réalisée par Anne de Guigné du service économie, sur les grands patrons et le RN. On se rend compte qu'il y a un silence un peu gêné hein, dans les milieux économiques vis-à-vis du RN.
C'est vrai que sur le plan économique, il n'y a plus la sortie de l'euro, l'épouvantail de 2017, ça c'est terminé. C'est vrai aussi que Marine Le Pen, qui est souvent taxée d'incompétence en économie, elle a beau jeu d'ironiser sur Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, qui a alourdi la dette de quasiment 900 milliards d'euros. Mais pour autant, et c'est vrai qu'elle elle s'entoure de, c'est ce que Anne de Guigné raconte dans son récit, elle s'entoure d'un groupe de jeunes intellectuels, les nouveaux Horace, de jeunes intellectuels, de jeunes fonctionnaires brillants, de normaliens, qui essaient de lui faire un programme économique plus libéral.
Donc, mais elle défend toujours la retraite à 60 ans, mais pour autant, l'exonération d'impôts pour les moins de 30 ans.
Mais pour autant, ça ne séduit pas du tout les milieux économiques, parce qu'elle reste sur un programme de gauche, étatiste, sociale, interventionniste, avec toujours les idées de 2022, c'est-à-dire la retraite à 60 ans avec 40 annuités dès qu'on a commencé à travailler avant 20 ans, avec le retour d'un impôt sur la fortune, avec la suppression de l'impôt pour les moins de 30 ans. Enfin, toutes ces mesures qui font peur au milieu économique. Et donc ça reste toujours d'actualité. D'ailleurs, son programme avait été chiffré par l'Institut Montaigne à 100 milliards d'euros de dépenses nouvelles.
Elle le conteste.
Mais bon, ça, toutes ces mesures ont un coût.
C'est un programme dépensier.
Or, du côté des recettes, elle a donc la politique d'encadrement de l'immigration qui est supposée rapporter environ 16 milliards d'euros, la lutte contre la fraude qui devrait rapporter 15 milliards d'euros, mais voyez que le compte n'y est pas, ça ne permet pas de financer. Donc les milieux économiques restent très distants, simplement sur le plan économique, mais ils restent très distants de ce programme qui reste un programme interventionniste, social et de gauche. Et à l'étranger, c'est encore pire, puisque les investisseurs étrangers qui détiennent la dette française, ils restent très, très, très prudents, enfin, très sourcilleux.
Oui, il y a une question de crédibilité vis-à-vis des marchés.
Mais tout à fait. On avait vu en 2017, à un moment, il y avait la possibilité d'un deuxième tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et tout de suite, la dette française avait flambé, enfin, c'était renchéri. Or, aujourd'hui, la dette, elle n'a fait que se creuser, et donc le sujet reste d'actualité.
Alors Arthur Berda, il y a des résistances économiques, il y a aussi des résistances politiques. On a vu un épisode la semaine dernière à l'Assemblée nationale, une députée Naïma Moutchou, une députée du groupe Horizon, donc faisant partie de la majorité, a voulu déposer un texte avec le soutien du Rassemblement national, c'était sur un sujet assez consensuel, sur les nuisances causées par les avions. Et donc ça a provoqué tout un pataquès au sein de la majorité. Les députés de la majorité ont retiré leur soutien à ce texte, et c'est finalement toute la question de l'arc républicain sur lequel Emmanuel Macron peine à fixer une ligne très précise qui se joue là.
Vous avez raison, l'argument d'Emmanuel Macron d'inclure ou d'exclure selon son intérêt le RN d'un prétendu arc républicain, il le faisait jusqu'ici pour mobiliser son électorat et galvaniser ses troupes. Bon, manifestement, une députée Horizon, c'est une députée certes proche d'Édouard Philippe, il n'empêche qu'Édouard Philippe, il fait partie de la majorité, donc aujourd'hui ça ne fonctionne plus, y compris au sein de ses propres troupes. Donc cette stratégie-là, qui avait déjà plutôt tendance à faire monter le RN dans l'opinion, manifestement, elle a même tendance à faire monter le RN au sein de ses propres troupes, puisqu'elle leur donne envie de travailler avec elle. Bon, donc c'est un échec total, cette stratégie. Pour reprendre votre question qui était, le RN a-t-il achevé sa mue? Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a d'abord, est-ce que la mue, on a cité tous les termes, hein, la dédiabolisation, puis la normalisation, puis la légitimation, puis la crédibilisation. Bon, la réponse est oui, en gros.
À force, oui, on a
compris
que...
En gros, la réponse est oui. Le RN, aujourd'hui, c'est un parti, le Front devenu Rassemblement National, c'est un parti qui est double finaliste de la présidentielle sur les deux dernières présidentielles, triple si on remonte à 2002. Donc, c'est un parti qui a envoyé en 2022 89 députés. Ils en ont un de moins aujourd'hui pour des raisons peu importe. Donc, ils ont aujourd'hui un groupe de 88 députés. C'est à lui tout seul le premier groupe d'opposition à la majorité, qui est déjà un conglomérat de trois groupes. Hein.
Ouais.
Donc, premier groupe d'opposition. Donc, sur tous ces critères-là, résultats électoraux, nationaux, aux législatives, etc., la réponse est oui. Donc, la question qui, pour moi, soulève plutôt nos échanges, c'est le RN. Peut-il exercer le pouvoir aujourd'hui? Est-ce qu'il est en capacité de l'exercer? Est-ce qu'il est en capacité d'exercer, d'appliquer son programme? Et là, de ce que je comprends, de ce que nous explique Marie-Cécile pour les questions économiques, de ce que je vois en Italie, concernant Giorgia Meloni sur le... Alors, c'est pas... Giorgia Meloni, ce n'est pas le Rassemblement National. Hein. Les lignes ne sont pas tout à fait les mêmes.
Justement, elle a joué la carte de la crédibilité économique.
Exactement. Et d'ailleurs, elle est revenue en arrière sur beaucoup de sujets, Giorgia Meloni. Le rapport à l'Europe pour gérer l'immigration. Elle s'est construite en opposition à l'Europe. Et puis, au moment où la question s'est posée concrètement à elle, elle a quand même appelé l'Europe au secours. Donc, la question maintenant, à mon sens, à mes yeux, elle est plutôt de savoir si le RN peut exercer le pouvoir, si le RN en a les capacités, si le RN pourra appliquer son programme ou si le RN, en cas d'accession au pouvoir, devra reculer sur toute ou partie de son programme.
En tout cas, en termes de force politique, il a aujourd'hui, disent certains sondages, la capacité d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Je fais référence à un sondage qui a été réalisé pour le Parti Les Républicains, qui a été divulgué la semaine dernière par l'OP, selon lequel le RN obtiendrait entre 243 et 305 sièges de députés à l'Assemblée nationale en cas de dissolution. Que faut-il penser de ce genre d'études, Stewart? Est-ce que c'est crédible?
D'abord, ce n'est pas le résultat que LR espérait.
C'est sûr.
Moi, je pense que ça correspond, comme on le disait, à la dynamique actuelle qui est évidente sur le plan électoral et sur la dynamique électorale. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. Par contre, je nuancerai quand même les choses parce que si vous regardez d'autres études, on voit quand même que la mise en perspective concrète du RN, comme vous le disiez très justement, Arthur, qui a accéderait au pouvoir apparaît comme si ce n'est pas très désirable, mais pour l'instant pas très probable non plus. C'est-à-dire que quand vous posez la question aux Français de savoir si Marine Le Pen ferait mieux que le gouvernement actuel, vous avez plus de 6 sur 10 qui disent qu'elle ferait ni mieux ni moins bien. Donc il n'y a pas une trajectoire très, très claire en disant s'il y avait Marine Le Pen au pouvoir, ce serait beaucoup mieux. À l'inverse, si vous leur demandez est-ce qu'elle ferait mieux que l'ensemble des dirigeants politiques actuels, vous n'avez que 18% entre guillemets qui répondent positivement. Et puis, le dernier chiffre, sans en donner trop, mais qui montre bien quand même la nuance qu'on doit avoir aussi lorsque l'on parle du Rassemblement national, vous regardez surtout l'item de la promesse aussi d'Emmanuel Macron de faire de la politique autrement. Est-ce que le RN fait de la politique autrement? Largement non par les Français. Donc ça veut dire que oui, il y a une dynamique électorale, mais il ne faut pas confondre cette dynamique électorale à un moment donné avec une véritable alternative, certes crédible, mais pour l'instant pas forcément désirable.
Alors on fait le tour des résistances au RN, on a fait l'économie, la politique. Je voulais vous poser une question, Anne Filda, sur les résistances au sein du milieu médiatique. On a vu un épisode... également la semaine dernière, qui concerne le journaliste Jean-François Achilly, avec un article du Monde qui évoque l'écriture d'un livre en collaboration avec Jordan Bardella. Jean-François Achilly dément être dans l'écriture de ce livre. Et pourtant, il a été suspendu d'antenne par Radio France. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette décision?
C'est la preuve que la dédiabolisation n'est pas allée jusqu'au bout, enfin en tout cas n'est pas arrivée à Radio France, puisque clairement, c'est assez surprenant quand même, parce que finalement le travail d'un journaliste, qu'est-ce que c'est? C'est un journaliste politique, c'est de rencontrer toutes les personnalités politiques, quelles qu'elles soient, puisqu'il est censé les couvrir, et pourquoi pas, à côté, envisager d'écrire des livres ou de faire des documentaires, etc. Donc en le sanctionnant comme ça, parce qu'il a envisagé, d'ailleurs il a dit ensuite que ce n'était pas le cas, d'écrire un livre avec Jordan Bardella, c'est vraiment une manière de prendre parti. Parce que est-ce qu'il y aurait eu la même chose si ça avait été un livre avec Jean-Luc Mélenchon? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Donc c'est vrai qu'il reste dans certains pans de l'audiovisuel public, et on le voit, des poches de résistance assez fortes. Enfin, on a le droit de ne pas aimer Marine Le Pen, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, dans un média, alors que tout le monde l'a dit, c'est désormais le Rassemblement National fait partie du paysage politique, est représenté à l'Assemblée nationale. Très souvent, les gens, on dit, en parlant de Marine Le Pen, elle ne fait pas de faute. Elle n'a pas fait de faute jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'elle n'a pas commis de faux pas qui l'excluraient de manière automatique du champ du politiquement correct.
Mais donc, Justement, est-ce que le RN aujourd'hui n'est pas dans la situation la plus confortable, c'est-à-dire en n'étant pas encore au pouvoir, en pouvant dire bah, « Regardez, on fait 30% dans les sondages », et en même temps, en pouvant aussi jouer la carte de la diabolisation d'ailleurs, avec ce type de
d'histoire, finalement, c'est la meilleure configuration. La carte de la victimisation,
Ils
ont beaucoup joué pendant des années. C'est vrai que cette carte-là n'est plus jouable. Alors, ce petit cas, c'est vraiment assez microscopique et pas très représentative. Cette carte-là, ils ne peuvent plus la jouer. J'ajouterais juste, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est qu'on... le Rassemblement national est en train de monter, et l'indicateur le plus important, c'est que désormais, le Rassemblement national n'est plus considéré comme un obstacle à la démocratie, comme un parti à l'encontre de la démocratie. Il y a eu un sondage en décembre qui montrait ça, que pour la première fois, il y avait plus de Français qui pensaient que le Rassemblement national n'allait pas contre la démocratie, alors que jusqu'alors, c'était le contraire. Mais il faut voir aussi le paysage autour qui compte beaucoup, c'est-à-dire qu'on a LFI, qui est un parti qui effraie par certains par ses comportements excessifs, notamment à l'Assemblée et au-delà. On a un parti LR qui est totalement inexistant, bien qu'il faudra quand même surveiller François-Xavier Mellamy, qui fait une campagne intelligente comme il avait fait la dernière fois, mais qui effectivement n'arrive pas malgré tout à passer le cran au-dessus. Donc le paysage politique environnant compte beaucoup.
Oui. Tout n'est pas figé.
Tout n'est pas figé.
On va passer au troisième et dernier thème de cette émission, consacrée à la grande chasse aux milliards. Alors, le gouvernement a annoncé un plan d'urgence de 10 milliards d'euros. Désormais, c'est 20 milliards qu'il faut trouver pour boucler le budget 2025. Et la Cour des comptes donne même l'estimation de 50 milliards à trouver d'ici 2027. Alors, Marie-Cécile, est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron, j'ai un peu de familiarité, n'a plus le choix face au mur de la dette et qu'il est désormais obligé de faire des réels efforts sur le plan du budget?
C'est sûr qu'on n'a plus le choix et que les finances publiques sont dans un état effarant. Je le rappelle, la France supporte une dette de plus de 3 000 milliards d'euros.
Faut rappeler les chiffres.
Rappelons les chiffres. Le déficit dérape, il ne sera pas de 4,9 comme prévu en 2023. Et quant à la croissance sur laquelle le gouvernement misait pour remettre les comptes d'aplomb, elle n'est pas là, puisqu'il a le gouvernement a révisé à la baisse la croissance et encore à 1%, et encore, ça ne devrait pas être ce chiffre-là. La Cour des comptes, la Banque de France, la Banque de France a annoncé 0,8. Donc, on voit que la situation...
Il y a une question de conjoncture, mais il y a aussi peut-être... On paye finalement des années de laisser faire, de quoi qu'il en coûte, sur ce sujet.
Oui, depuis des années, la Cour des comptes tirait la sonnette d'alarme et finalement, on a laissé filer. Donc, comme vous le disiez, le gouvernement a annoncé 10 milliards d'économies supplémentaires pour cette année, 20 milliards pour l'année prochaine, et la Cour des comptes dit que ça n'est pas suffisant, qu'il faudra faire 50 milliards. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand la France vit au-dessus de ses moyens? Quand un ménage vit au-dessus de ses moyens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler plus et dépenser moins. Donc là, le gouvernement essaie d'enclencher cette politique du travailler plus. C'est donc, par exemple, la réforme de l'assurance chômage pour remettre les chômeurs au travail. C'est la réforme du RSA, contractivité. On essaie de remettre au travail les gens qui sont au RSA, parce qu'on s'aperçoit finalement qu'au bout de 7 ans, les gens qui sont au RSA, ils sont toujours, faute d'accompagnement suffisant. C'est aussi la réforme, la négociation qui est actuellement en cours sur l'emploi des seniors. Parce qu'en France... seulement 30% des 60-64 ans sont en emploi, contre 60% en Suède. Donc, il y a cette réforme du travailler plus. Et puis après, il y a dépenser moins. Donc, c'était aussi la réforme des retraites qui jouait un peu sur les deux tableaux, qui voulait remettre les gens, faire que les gens travaillent plus longtemps, mais aussi dépenser moins. Parce que quand vous ne payez pas des retraites pendant 2 ans, ça fait moins de dépenses. Mais le gouvernement a une forme de responsabilité, parce qu'ils ont laissé aussi filer, la réforme permettra de faire moins d'économies que ce qui était prévu, parce qu'ils ont autorisé des tas de dérogations. Je citerai par exemple un exemple, les carrières longues, les départs anticipés pour carrières longues, qui était un dispositif que, avant la réforme des retraites, la Cour des comptes déjà disait mal ciblé, qui ne correspondait pas vraiment aux personnes qui en avaient besoin, et qui était très coûteux, ça a été élargi par la réforme des retraites. Donc autant il y avait 20% de personnes qui partaient en départ anticipé pour carrière longue, 20% en 2022, on est passé à 30% cette année.
Sur une idée originale, et c'est l'ironie de l'histoire, d'un député LR, Aurélien Pradier.
Aurélien Pradier.
Qui était le plus fervent militant de cette exception dont
mais qui n'était pas partagé par l'ensemble des LR.
Et qui a obtenu gain de cause et qui fait qu'elle est très coûteuse.
Et alors, dès qu'on se demande où trouver l'argent, finalement, revient la question sempiternelle des impôts, Arthur Berda. Emmanuel Macron est poussé par un certain nombre de ses proches à augmenter les impôts, notamment sur le patrimoine des plus riches. Pourtant, il avait promis de ne jamais augmenter les impôts. Est-ce que vous pensez qu'il va tenir cette promesse ?
Mais il a même été plus loin que ça. D'abord, il a tenu cette promesse jusqu'ici. Emmanuel Macron avait promis qu'il n'augmenterait pas les impôts. Il a tenu cette promesse depuis son élection en 2017. Il l'a même été plus loin pour l'année prochaine. Il a promis, souvenez-vous, de les baisser encore pour certains Français, les classes moyennes. Alors, c'est une définition un peu floue, mais c'est toujours mieux les définitions un peu floues. De 2 milliards d'euros, tout à fait, en 2025. Donc, non seulement lui a dit « je ne les augmenterai pas comme je ne les ai pas augmentés jusqu'ici », mais en plus, je vais encore les baisser pour certaines catégories de Français. Bon, vous avez raison de rappeler qu'il est sous la pression et, d'ailleurs, la Banque de France l'encourage à ne pas les baisser. La Banque de France, qui n'est pas, n'a pas la gestion de la fiscalité directe, évidemment. Ouais. Mais il était l'invité, à la fois, il a accordé une interview au Figaro et il était l'invité d'une radio grand public la semaine dernière, absolument, où il a dit qu'il fallait renoncer à cette baisse. Donc, on verra si Emmanuel Macron résiste à la pression, à la fois concernant cette baisse et concernant son refus d'augmenter les impôts, notamment sur les riches, avec toujours ce, je mets des guillemets, à riche, avec toujours cet argument identique, l'ISF. L'ISF, aujourd'hui, si on le rétablissait, ça rapporterait, est-ce que je ne veux pas piéger Marie-Cécile avec cette question, mais en gros, je crois qu'on parle
pas grand-chose.
De 2 milliards d'euros. Ouais.
C'est très
symbolique, l'ISF. Hein. Là, quand on parle de chercher 10 milliards cette année, 20 l'année prochaine, on parle de 30 milliards en 2 ans. L'ISF, je crois que c'est moins de 5 milliards, je crois.
Parce que l'ISF n'a pas été totalement supprimé, il a été remplacé par l'IFI,
l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, le rétablir pour le capital rapporterait à l'État moins de 5 milliards d'euros. C'est absolument symbolique, ça n'a aucun impact sur les finances publiques. Je voudrais juste apporter une nuance à ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, c'est que le quoi qu'il en coûte, en soi, il n'a pas été tellement contesté en France. D'abord, il a été permis par les réformes qu'Emmanuel Macron avait engagées au début de son quinquennat, et au moment du Covid, avec cette sidération qui a été celle du monde entier, le quoi qu'il en coûte a permis à la France de plutôt mieux résister que les autres. Le problème, c'est que nous n'en sommes pas sortis. C'est pas d'avoir instauré le problème, c'est d'avoir, de n'avoir pas su en sortir dans un pays qui est dopé à l'aide publique depuis des années. Et j'en termine par là, je parle à nouveau sous le contrôle de Marie-Cécile. Il me semble que ça fait en France 50 ans que l'on n'a pas voté un seul budget, non pas en excédent, ce serait trop beau, 74. À l'équilibre. 1974, 50 ans, je n'étais pas né, c'est pas, j'apprendrai rien à ceux qui nous regardent, je crois que ça se voit sur mon visage. Bon, la France vote des budgets en déficit année après année, depuis 50 ans, donc Emmanuel Macron en est coupable, ses prédécesseurs aussi, reste à savoir si quelqu'un pourra inverser cette tendance, je suis assez pessimiste.
Alors justement, il y en a un qui...
Sur la hausse des impôts, il faut rappeler quand même qu'on est champion d'Europe, de l'OCDE, de la taxation, avec 48% de prélèvements obligatoires, donc les augmenter encore, c'est creuser l'écart avec les autres pays.
Il y a un ministre au gouvernement qui prend, en tout cas en termes d'affichage, les choses au sérieux et qui veut inverser la tendance, c'est Bruno Le Maire. C'est lui qui fait toutes les annonces difficiles sur les plateaux télé. Il était encore ce matin sur France Inter et il lançait l'alerte sur l'emploi et la dette. On l'écoute.
Je ne crois pas à l'accumulation de dépenses année après année qui deviennent des acquis sur lesquels on ne bouge pas. Quand nous mettons en place, avec le président de la République et le Premier ministre, un bouclier de protection tarifaire contre la flambée des prix du gaz et de l'électricité, le jour où la flambée des prix du gaz et de l'électricité a fini, eh bien on retire ces aides. C'est ça la différence entre un État-providence qui accumule les dépenses et qui ne revient jamais dessus et un État-protecteur qui, lui, protège quand c'est nécessaire face au Covid, face à l'inflation.
Alors Anne Fida, justement, Bruno Le Maire, il sort aujourd'hui même un livre dans lequel il donne son chemin pour la France, où il y a beaucoup de questions d'économie, de dette publique. Est-ce que cette position de père la rigueur, c'est une position qui peut le servir politiquement en vue d'une éventuelle ambition présidentielle ? C'est compliqué.
C'est vrai que c'est assez étonnant parce que, comme il a été dit avant, comme l'a notamment dit Arthur, on a l'impression que c'est une incapacité structurelle qu'elle a qu'ont les gouvernements français successifs à tailler dans les dépenses, à lutter contre l'endettement, c'est quelque chose de... Et les discours allant dans ce sens, alors on peut dire d'une certaine façon c'est assez courageux, on a souvenir assez récemment de François Fillon qui avait dit qu'il était à la tête d'un État en faillite, mais qui, durant les 5 ans à Matignon, n'a pas vraiment fait d'efforts notables dans la baisse des dépenses publiques. Mais bon, c'est pas... C'est comme les rapports de... les rapports dont on vient de parler, de la Cour des comptes, on a l'impression qu'année après année, plus ça va, plus on décrit une situation absolument catastrophique. Là c'est le pompon. Là, Pierre Moscovici a utilisé des termes qui ont de quoi faire peur. Bon, je ne vais pas rappeler ce qui a été dit, mais enfin, on est quand même sur la dette publique derrière la Grèce et l'Italie. Quoi. Donc, mais c'est pas un thème qui prend en France. Oui, donc, que Bruno Le Maire prenne ce positionnement, c'est très bien. Il voulait peut-être faire un nouveau livre, parce qu'il en fait souvent. Et, et puis, c'est assez paradoxal venant de quelqu'un qui, effectivement, a incarné le quoi qu'il en coûte durant le Covid.
Oui, il a une
donc,
part de responsabilité quand même
comment
sur
lui,
ce bilan.
Qui a été celui qui incarnait cette politique-là, d'ailleurs, ce qui lui a valu un regain de popularité à l'époque, peut aujourd'hui prôner exactement le contraire. Et ensuite, deuxième question qui est essentielle, où va-t-on trouver ces économies à faire? Est-ce qu'il faut baisser les dépenses sociales? Mais où, comment? Alors que c'est ça le problème, en fait.
Stewart, comment porter politiquement ce sujet aujourd'hui? On l'a vu, c'est très compliqué. François Fillon, qui avait essayé de le faire en 2017, il s'est cassé les dents. Bon, il y avait aussi d'autres circonstances. mais quand même, à chaque fois qu'un candidat tente d'aborder ces sujets-là, ben, on se rend compte que ça ne fonctionne pas auprès des Français.
Mais quand vous faites la liste des enjeux prioritaires pour les Français, sur lesquels le gouvernement devrait agir, je crois que quand on présente une quinzaine d'enjeux, la dette, la réduction de la dette, c'est dans les 3-4 derniers enjeux cités comme enjeux prioritaires par les Français. Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, parce que, et je m'inscris dans ce qui a été dit, on est dans une logique où quelque chose s'est installé depuis un certain nombre de temps, et peut-être amplifié depuis le quoi qu'il en coûte, d'un imaginaire où finalement, lorsqu'il y a de l'argent à trouver, on le trouve. Et au-delà des études quantitatives que l'on peut mener, on fait, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup d'études qualitatives où on va interroger les Français de manière approfondie, en entretien. On n'a jamais eu autant cette rhétorique de toute façon, quand il faut dépenser, on dépense. La dernière déclaration, c'est sur le conflit en Ukraine. La guerre coûte, et lorsqu'il faut, parce qu'il le faut, on trouve l'argent. Donc il y a un imaginaire qui s'est installé dans l'opinion publique qui, effectivement, ne s'aligne pas forcément avec les enjeux que Bruno Le Maire veut appréhender. Et puis le deuxième élément qui me semble aussi intéressant, vous parlez des impôts. Chez Verian, nous avons un baromètre avec l'Institut Doulouvrier sur les services publics. Et là, c'est assez inédit aussi. On a un nouveau croisement des courbes. Ouais. C'est que pour la première fois depuis un certain nombre d'années, on a plus de Français qui considèrent qu'il vaudrait mieux baisser les impôts, même si cela voudrait dire que les services publics seraient moins bien lotis, moins importants, que des Français qui disent qu'il faut augmenter les impôts pour avoir de meilleurs services publics. Donc, vous voyez, on est sur une opinion, finalement, qui n'est pas vraiment prête aujourd'hui à entendre ce genre de discours.
Un peu schizophrénique, quand même, parce que les services publics sont au cœur des
attentes
des Français.
Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un enjeu pour les Français. Mais ça veut dire que, dans la compétition des enjeux et des crises que l'on connaît, le pouvoir d'achat, l'inflation arrive très largement en tête, la réduction de la dette, beaucoup moins.
Arthur Berda.
Ça veut surtout dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consentement à l'impôt en France, puisqu'on a un impôt, Marie-Cécile le rappelait, on est champion de l'OCDE, quasi champion du monde, je crois, en foot en 2018 et en impôt tout le temps. Donc on est champion du monde des prélèvements obligatoires, et que la qualité du service public qui est rendu aux Français n'est pas au rendez-vous. Et je le dis au corps défendant de la plupart des services publics. Hein. Je ne jette pas la pierre à l'hôpital public, je ne jette pas la pierre aux chauffeurs de train. Simplement, aujourd'hui, en France, il y a un consentement à l'impôt qui n'est pas au rendez-vous, car l'impôt est très élevé et que la qualité du service public qui est rendu est inférieure. Et donc, il y a une sorte de fantasme de la privatisation du service public où on se dit, bon, quitte à payer autant que...
Mais c'est la question de l'efficacité de l'argent public.
Absolument.
Comment il est dépensé et comment...
Absolument. Et le Ségur de la santé est, de ce point de vue-là, éloquent. Marie-Cécile a consacré plusieurs articles à la question de savoir pourquoi est-ce que l'État a injecté des milliards d'euros dans le Ségur avec des augmentations pour les personnels soignants et paramédicaux inédites.
Oui, c'était historique.
Et pour autant, résultat, nul dans l'hôpital public.
C'est une forme de rattrapage. Mais c'est vrai que là, on se retrouve au pied du mur et que, comme le disait Anne, le gros des dépenses, ce sont les dépenses sociales, avec d'un côté les retraites et de l'autre côté les dépenses de santé. Donc là, le gouvernement a l'air de vouloir prendre quand même...
La question, où est-ce qu'on baisse ? L'hôpital public, non. La défense, non. La police, non. L'éducation, non. Pas question.
Mais bon. Dans les dépenses sociales, donc les retraites, bon, c'est fait. Et ouais. Dans la santé, ça reste à faire. Donc là, le gouvernement a l'air de... Il y a une négociation assez dure avec les médecins. Ils leur disent... On ne vous augmentera pas, parce que les médecins attendent une revalorisation de la consultation qui n'a pas bougé depuis des années. Ils leur disent, on vous augmentera si vous baissez vos prescriptions de médicaments, d'examens, etc.
Chaque généraliste
dépense jusqu'à 700 000 euros par an.
Oui. L'impôt déguisé de la franchise médicale doublée. Oui. Puisqu'on parlait d'augmenter les impôts, ça c'est un impôt déguisé, la franchise médicale. À tort ou à raison, le sujet n'est pas là. En revanche, les Français vont avoir un reste à charge deux fois supérieur à celui qui était le leur jusqu'ici.
Alors c'est le mot de la fin sur ce thème. Je vais vous demander de vous mouiller un peu désormais sur cette dernière séquence de l'émission qui est le coup de cœur, coup de griffe. Je vais vous demander un sujet qui vous a... surpris positivement ou négativement sur les derniers jours de l'actualité. On va commencer par vous, Stewart, votre coup de cœur de la semaine.
Mon coup de cœur, alors ça peut apparaître un peu déconnecté de l'actualité, mais je crois pas, c'est le nouveau film, un film qui va sortir, La beauté du geste, sur le ballet royal cambodgien, qui montre finalement que malgré toutes les tragédies, et le Cambodge en a vécu une il n'y a pas si longtemps que ça, malgré toutes les tragédies, la culture peut résister. Et la culture peut aussi montrer la capacité de résilience des peuples. Je me dis que dans le moment, on en a un peu besoin d'y croire.
Un coup de griffe.
Un coup de griffe, on parlait de santé tout à l'heure. Nous avons appris que là, à l'été 2024, on aura beaucoup moins d'internes dans les hôpitaux, puisque un certain nombre, une centaine d'internes, je crois, un peu moins d'un millier, qui se verront refuser leur stage, parce qu'il y a maintenant, avec la réforme de 2023, une note couperée à l'écrit, qui est de 14 sur 20, je crois, et qui fera que un certain nombre d'étudiants en médecine ne pourront pas intégrer le milieu hospitalier, sachant que d'ailleurs, les internes, c'est 40% quand même des praticiens hospitaliers. Donc quand on parle de manque de professionnels de santé, ça m'interroge.
Humaine dans le domaine stratégique de la santé, c'est en effet très surprenant. Anne Fulda, à votre tour, coup de cœur de la semaine.
Coup de cœur, c'est le livre de Chloé Morardo. Et là, j'ai oublié le titre, je crois que c'est Lettre à mon fils. Une dystopie qui est une mise en garde contre le wokisme, qui est très, très bien argumentée, qui présente le wokisme...
C'est quand il aura 20 ans, le titre...
Oui, quand il aura 20 ans, voilà. C'est une lettre à son fils. Et donc, c'est un essai qui est très argumenté sur les dangers du wokisme qu'elle assimile à une nouvelle idéologie. Et ce qui est intéressant, on parlait tout à l'heure de Jean-François Aquili, il se trouve que c'est le journaliste à France Info, il se trouve que c'est sa compagne... Ça n'a guère d'importance, si ce n'est que dans le procès qui est fait à Jean-François Aquili, cette mention-là est parfois donnée comme argument. Mélanger. C'est-à-dire que c'est quelqu'un... Voilà, parce qu'elle se positionne à gauche. Mais une gauche qui est la gauche totalement anti-LFI. Voilà.
Elle vient du cabinet de Manuel Valls.
Elle vient du cabinet, voilà. C'est la tendance valsiste. Ouais. Et voilà, et c'est aussi ce qu'on reproche à Jean-François Aquili.
Donc. Voilà. Un coup de griffe.
Un coup de griffe, c'est la dérive terrible de Sciences Po. Bon, c'est pas parce que j'en sors, mais parce que c'est quand même terrible de voir cette école qui était censée être le lieu de débat par excellence, le lieu de la liberté d'expression, du respect de la parole de l'autre et de l'échange, qui se mue en une espèce d'endroit où il y a des affrontements qui sont honteux.
Il faut expliquer peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode de la semaine dernière.
Je fais allusion à l'épisode de la semaine dernière où il y a eu une sorte de mobilisation pro-palestinienne dans un amphithéâtre de l'école. D'ailleurs, les manifestants n'avaient pas l'autorisation d'être dans cet amphithéâtre. Donc, amphithéâtre pavoisé aux couleurs des drapeaux palestiniens, avec des keffiyehs, etc. Et on a interdit... il y a une enquête qui est en cours. Néanmoins, visiblement, il y a eu interdiction d'accès à une jeune femme à qui on a dit qu'elle était sioniste. Voilà, bon. Il y a aussi des forts relents d'antisémitisme. On a vu qu'il y a quelques années, il y a quelques temps, Alain Finkielkraut n'a pas pu tenir une conférence, enfin, a pu, mais finalement sous protection policière. En fait, cette école, visiblement, est pénétrée par les idées woke, justement, le lien avec mon coup de cœur, et c'est un vrai problème.
Marie-Cécile, un coup de cœur.
Alors, moi, je reste fidèle à l'orthodoxie des comptes, donc je donne mon coup de cœur à Thomas Cazenave, qui, la semaine dernière, a annoncé le ministre des Comptes publics, oui, qui donc a annoncé un chiffre historique record dans la lutte contre le travail au noir. Il y a eu 1,2 milliard d'euros de redressement fait par les URSSAF, donc c'est 50% de plus que l'année précédente, et le gouvernement est assez ambitieux, veut arriver à 5 milliards d'ici 2027. Donc c'est très important, parce que le travail au noir, c'est vraiment un fléau. Vous parliez tout à l'heure, Arthur, du consentement à l'impôt. C'est le socle, il faut vraiment lutter contre ça, avec les répercussions que ça a sur les dépenses sociales, les dépenses fiscales, la loyauté de la concurrence entre les acteurs économiques, et puis la cohésion sociale.
Et votre coup de griffe ?
Alors mon coup de griffe va à une PPL, une proposition de loi qui va être étudiée à l'Assemblée nationale le 27 mars, déposé par un député Lyotte, Olivier Servat, et qui est soutenu par des députés LFI, sur la discrimination capillaire.
D'accord.
C'est-à-dire que...
Alors expliquez-nous rapidement.
Il souhaite inscrire dans le Code du travail le fait de ne pas pouvoir discriminer une personne en fonction de la couleur de ses cheveux, la longueur, la texture, la coupe, enfin. Donc ça veut dire que les chauves, les roux, les blonds vont pouvoir se protester, se plaindre s'ils s'estiment discriminés. Non, je plaisante, mais en fait, c'est assez sérieux. Ça veut lutter contre la discrimination raciale à l'égard des personnes noires. Mais quand même, il y a déjà dans le Code du travail une interdiction de discrimination sur l'apparence physique. Donc, à l'heure où on nous parle de simplification administrative, on en rajoute en permanence. Donc, on peut vouloir vider la baignoire des normes administratives, mais si on laisse couler le robinet et on en rajoute sans cesse davantage, on ne s'en sortira pas.
Arthur Berda, votre coup de cœur, rapidement.
Coup de cœur, une fois n'est pas coutume, je vais vous surprendre, pour un insoumis, pas n'importe lequel, Louis Boyard.
Ah, d'accord.
Absolument. Louis Boyard, plus jeune député de l'Assemblée nationale, Benjamin de l'Assemblée, qui s'est honoré la semaine dernière, puisqu'il avait, on annonçait en grande pompe son match retour à venir avec Cyril Hanouna, dont il a été le chroniqueur avant de devenir lui-même député LFI, Louis Boyard. Et on annonçait le match retour, puisque Cyril Hanouna fait partie de ces personnalités qui sont passées sur le grill de la commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences de la TNT. C'est un petit peu technique, mais en gros, ça a été une manière pour certains députés de régler leur compte avec les représentants des médias détenus par Vincent Bolloré. Donc CNews, C8, etc. Donc Louis Boyard, on annonçait un match retour à l'Assemblée nationale, et bien il s'est honoré en démissionnant de cette commission pour laisser, puisqu'il est engagé dans un procès avec Cyril Hanouna, donc pour laisser le cadre judiciaire à la justice, et puis pour laisser cette commission faire sérieusement son travail, ce qu'il aurait, il l'a reconnu lui-même, c'est à son honneur, entravé.
En quelques secondes, votre coup de griffe de la semaine.
Coup de griffe, Jordan Bardella, on en a beaucoup parlé dans cette émission, il a commis une erreur, et on ne s'honore jamais pour le coup, a refusé un débat, il a refusé un débat la semaine dernière avec les autres candidats aux européennes sur Public Sénat. On ne s'honore jamais à refuser un débat de façon générale. Emmanuel Macron a eu tort de le faire en 2022, Jordan Bardella a eu tort de le faire en 2024. On s'y honore d'autant moins quand on est soi-même le favori.
C'est dit, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'y avoir participé. Vous retrouvez la semaine prochaine Yves Tréhard pour une nouvelle édition du Club Politique.